Apprenez à reconnaître les oiseaux dans votre jardin, dans un parc public ou tout simplement depuis votre balcon. En savoir plus sur les oiseaux des jardins, comment les accueillir ? Bienvenue aux oiseaux des jardins sur l'antenne de Radio Alpes-Mancelle avec notre invité Monsieur David Lechat pour la LPO, Ligue de protection des oiseaux. Monsieur Lechat, bonjour.
Bonjour.
Alors de quel oiseau allons-nous parler et faire découvrir ou redécouvrir à nos auditeurs aujourd'hui ?
Aujourd'hui, on va parler de la mésange bleue. Son nom latin, Parus caerulus. Donc en fait, c'est un passereau, un petit passereau. Donc j'avais déjà eu l'occasion de dire que les passereaux sont ceux qui se perchent. Mais en termes de mésange, il y en a plusieurs. Donc c'est là qu'il va falloir être un peu plus vigilant. Bien que la mésange bleue, de par son nom déjà, indique sa couleur. Et sa couleur ne permet pas de confusion possible avec d'autres espèces de mésange, comme la charbonnière, comme la mésange noire, la mésange à longue queue, la mésange nonnette, ou encore la huppée. Tout ça, ce sont des mésanges qu'on a chez nous, dans nos campagnes. Concernant le mode de vie, ce petit oiseau, parce que c'est un petit oiseau, hein, vraiment, ça fait quoi, 12 cm, hein. Quand on dit 12 cm, c'est de la pointe du bec à la pointe de la queue, hein. Donc 12 cm, l'envergure à peine 20, hein, à peu près 18, quelque chose comme ça, on est sur du 10 grammes en poids, hein, 10-11 grammes, bon, ça dépend si elle a emmagasiné des réserves ou pas. Donc il y a un dimorphisme sexuel, c'est-à-dire qu'on reconnaît les mâles des femelles. Alors, c'est assez subtil, hein, tout de même, mais comme c'est un oiseau qui vient souvent à la mangeoire, on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard, on peut s'attarder à regarder la différence. Et la différence, c'est que le mâle, le bleu, est plus soutenu, on va dire ça comme ça, même si c'est pas toujours évident. Par contre, il a un petit liseré au niveau du cou, une petite bande bleue, plus épaisse que chez la femelle. Ça reste néanmoins assez discret, et franchement, entre une vieille femelle et un jeune mâle, bah c'est pour vraiment avoir un œil aguerri pour faire la différence. Par contre, on en discutera, on peut avoir l'occasion d'avoir des petits chez soi. Au sortir du nid, les petits sont nettement plus jaunes. Jaune, le bleu est très pâle, et surtout au niveau des joues, les adultes ont les joues blanches et les jeunes ont la joue plutôt jaune, ouais, jaune pâle, quoi. Donc c'est assez facile à repérer.
Des risques de confusion avec une autre espèce possible ?
Alors les risques de confusion, c'est très peu de par sa couleur bleue. Non, vraiment on peut pas. Celle qui cohabite le plus, enfin qui fréquente le même milieu, etc., c'est la mésange charbonnière. Elle est jaune et noire, donc vraiment, non, pas de confusion possible, parce que là, la mésange bleue, de par son nom, elle est vraiment bleue, quoi. Justement, alors concernant son mode de vie, je disais, elle fréquente un peu les mêmes milieux que la mésange charbonnière. Et effectivement, on va la trouver un petit peu partout, dans les bois, dans les forêts, les vergers. Les parcs, les jardins, en ville, à la campagne, enfin elle est vraiment un petit peu partout. Elle est plutôt sédentaire, hein, donc elle ne migre pas et elle peut être grégaire en hiver, c'est-à-dire qu'elle va former des petits groupes, des petites bandes avec d'autres mésanges de son espèce ou pas. Ils vivent ensemble, mais je pense que c'est surtout pour repérer la nourriture, parce que après c'est chacun son assiette, quoi. Hein. Si elle peut donner un coup de bec méchant à sa congénère parce que elle occupe le terrain, elle va pas s'en priver, quoi. Donc elle est quand même assez territoriale. Et d'ailleurs, même on a eu un petit peu de soleil là, il y a une semaine ou deux, il faisait bon, et j'ai vu un mâle qui commençait à marquer son territoire. Il poursuivait méchamment un autre mâle. S'il l'attrape, il peut aller jusqu'à le tuer. La mésange bleue a un bec petit, court, mais très très pointu et très incisif, quoi. Donc l'alimentation pour cet oiseau, c'est essentiellement des graines en hiver, parce que bien évidemment très peu d'insectes en hiver. Mais cela dit, comme elle est capable de s'accrocher vraiment partout, elle est capable d'aller s'accrocher sur un muret, aller chercher une petite araignée qui est logée cachée derrière une petite planche de bois, que sais-je, quoi. Donc vraiment, elle est même capable de se suspendre la tête en bas. Donc elle est vraiment très très agile. Au printemps, par contre, là, c'est essentiellement des insectes. Vraiment des insectes. Les graines, elle va quasiment pas y toucher parce qu'il va falloir nourrir les petits. Donc là encore, elle va chercher partout, y compris sous les feuilles des arbres. Donc elle se suspend Et elle va chercher les petites bestioles qui sont à l'abri des feuilles, à l'abri de la rosée du matin, à l'abri du soleil, etc.
Et du coup, côté nidification, comment cela se passe-t-il pour cette espèce ?
Alors, pour la nidification, là, les mâles vont commencer à chanter. On est premier rayon du soleil, là, et première chaleur, ça va commencer à chanter. D'ailleurs, c'est un terme un petit peu particulier. On dit qu'ils zinzinulent. C'est un terme qu'on peut aussi trouver, utiliser pour les fauvettes. Le mâle de la maison bleue a un panel de sonorités assez impressionnant, puisqu'on peut en avoir une trentaine, entre les cris, les chants, les signaux d'alerte, c'est vraiment très, très varié. Elle niche dans un trou d'arbre, dans un mur, dans un trou de mur, dans les parpaings, pourquoi pas, si c'est creux. Enfin, tout ce qui ressemble à un trou, quoi. Y compris les nichoirs. Le nid est fait de mousse, assez douillé, hein. Des fois, il est épais. Mousse, herbe sèche, pas très haut, ça peut être 2 mètres, ça peut être 3 mètres. Bon, max, généralement, c'est 6 mètres, mais vraiment, si elle trouve pas plus bas. Hein. Il y a deux pontes, souvent deux pontes, pas plus, parce que c'est vraiment des pontes très importantes. Hein. Il y a plus de 10 œufs, 10, 12, 13 œufs, du fait de la prédation. Hein. Il y a beaucoup de prédation chez cette espèce. Elle est prédatée par les perviers, etc., par les pies, voilà. Donc, en fait, la stratégie de l'espèce pour la survie de l'espèce, eh bien, c'est de faire beaucoup de petits, sachant que sur les 10 à 12, 13, des fois même, eh bien, il en restera peut-être que 2 ou 3, mais ça suffira à pérenniser l'espèce. Donc, deux pontes par an, d'avril à juin, donc ça va pas tarder à démarrer. D'une dizaine d'œufs. Il n'y a que la femelle qui couve. Elle va couver deux semaines. Et puis, les jeunes vont rester encore trois semaines au nid.
Et quel lien la mésange bleue entretient-elle avec l'homme de manière générale ?
Alors, ces liens avec l'homme sont intéressants parce que, comme je viens de l'évoquer, au moment du nourrissage des jeunes, là, pour le coup, elle a besoin de beaucoup d'insectes. Alors, on retrouve même cet intérêt qu'a l'homme par rapport à l'oiseau, notamment en agriculture biologique et notamment dans les vergers. En fait, ils mettent des nichoirs dans les vergers parce que, vous l'aurez compris, bah, pour le coup, le but, c'est qu'elle mange un maximum d'insectes, de chenilles ravageurs pour les pommes, poires, etc. Et donc, bah, autant la mettre à table, quoi. Donc, vraiment, elle est utile à l'homme. On peut l'attirer facilement parce que vraiment, un nichoir, c'est tout à fait l'affaire dès l'instant que... Alors, un nichoir, les dimensions, ça va être, mettons, 15-15 de base. Et puis, allez, 20-25 de haut. Et puis, par contre, le diamètre du trou, faut pas trop qu'il dépasse 28 mm. 2 cm 8 parce que sinon bah, c'est d'autres espèces qui vont s'installer. Or, ça change rien, enfin, dans le sens où on aide les oiseaux. Enfin, si vous voulez des mésanges bleues, 28 ça suffira, sans quoi le moineau il va s'y mettre. Pourquoi pas les tourneaux si vous mettez quelque chose de nettement plus gros. Donc, elle vient assez facilement à la mangeoire, ou même très facilement à la mangeoire. Elle mangera les graines de tournesol ou encore les petites boules de graisse que vous pouvez mettre à disposition. Elle a toujours vécu quand même près de l'homme, puisque peut-être qu'on se souvient durant notre enfance, chez les grands-parents, chez les arrière-grands-parents, dans la pompe du puits que quasiment tous les foyers avaient, eh bien, il y avait un petit couvercle qu'on pouvait soulever, et bien souvent, il y avait un nid qui était un nid de mésange qui était mis en place. Alors, elle rentrait par là sous la pompe, et elle arrivait à se frayer un petit chemin pour loger là. Encore une fois, sous la pompe, il y avait comme un petit trou, donc elle logeait par là. Alors, on soulevait le petit capot, là, je sais pas comment ça s'appelle, et en prenant soin, bien sûr, on fixait carrément la pompe pour que personne ne manœuvre la pompe au risque d'abîmer les petits. Donc voilà, un lien assez étroit avec l'homme.
David, je vous remercie et vous retrouve très vite pour une nouvelle espèce d'oiseau à découvrir.
Merci, à bientôt. Au revoir.